Voilà, nous allons poursuivre notre journée puisque nous avons commencé avec la messe autour du thème de l'Église, donc avec Dominique qui nous a fait le lien entre le pasteur et son peuple et l'entraîneur et l'athlète. Nous allons continuer autour des athlètes et donc on va tout d'abord écouter un ancien athlète de haut niveau qui va nous partager son expérience. Voilà, et puis. Là où il s'est engagé maintenant, voilà, ça sera vraiment sous la forme du témoignage. Alors, on va l'encourager parce qu'il est un petit peu stressé de parler devant nous.
On n'est pas méchants.
Voilà. Voilà, tu as la chance d'avoir un auditoire.
Acquis.
Voilà, acquis.
Je préfère finir la phrase parce que c'est rassurant. Merci Pascal. D'abord,
nous, est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est l'intervenant?
Alors, donc c'est donc Philippe Goningham, mais comme il va faire son témoignage, c'est pas la peine que je le présente, il se présentera bien tout seul.
D'accord.
En tous les cas, d'abord en préambule, je tenais à vous remercier pour le petit moment qu'on a passé ensemble à la messe. Alors, c'est la première fois que je vois un cycliste, un marathonien, un arbitre, officier à la messe. C'est un spécialiste du développé couché. Et c'est vrai que c'est particulier de démarrer d'abord par cette découverte d'abord de votre profil sportif, j'ai oublié le tennisman, et puis de vous voir officier, donc c'est particulier. Je vous remercie pour ce moment, et puis de l'avoir pris dans ce sens-là, c'est sympa. Enfin, en tous les cas, c'est pas banal. Alors donc, comme Pascal vous l'a dit, je serai plutôt sous la forme du témoignage parce que le sujet, sport professionnel et foi, il y a une partie que je connais un peu, humblement. L'autre partie, c'est plutôt, on va dire, un témoignage personnel qu'une connaissance spécifique de la foi. Alors donc, comme je vous l'avais expliqué dans ma présentation, j'ai commencé d'abord par une vie sportive, une vie d'athlète, qui m'a amené jusqu'à 29 ans. Donc j'ai pratiqué la discipline du 400 mètres raies, c'était certainement pour très rapidement découvrir que dans la vie il y avait des obstacles. Donc ça m'a amené à avoir un parcours honorable. Je vous disais que j'étais international sur la période de 1985 à 90, sans avoir des qualités physiques exceptionnelles, mais peut-être une volonté d'exister sur un temps. Enfin, en tous les cas, j'adorais la compétition, j'adore la compétition. Ça a été un parcours de vie vraiment, vraiment extraordinaire. Avec, on va dire, si on doit le replacer dans le contexte de l'époque, moins de difficultés à passer de la situation d'athlète à celui d'homme ou de futur professionnel. Donc, on va dire que la résurrection que j'évoquais hier ou la reconversion des sportifs était plus simple donc, dans les années donc 90 qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, fait une reconversion d'abord dans le monde de la formation et puis je suis revenu aux affaires du sport en devenant DTN adjoint, donc directeur technique national adjoint à la Fédération française d'athlétisme. J'avais le titre de directeur de l'élite, alors c'est quelque chose de très honorifique, mais enfin, en tous les cas, la mission que j'ai menée sur l'Olympiade de Pékin a été d'assurer la professionnalisation de l'athlétisme. Alors, quand on parle de professionnalisation, je voudrais juste resituer l'objectif, c'est pas simplement de rentrer dans une logique de rétribution des sportifs, mais c'était avant tout d'installer un véritable statut pour les sportifs de haut niveau. Je vais vous parler de façon spécifique du périmètre du sport individuel, puisque donc on va dire que l'organisation des sports collectifs est un peu différente et que le sport professionnel est plutôt rattaché au sport collectif. Donc, j'ai participé, j'étais à l'initiative de la première création d'une ligue professionnelle dans un sport individuel, dans l'idée de sécuriser le parcours des athlètes, parce qu'en fait, ce sont de véritables professionnels dans l'activité, ce sont des sportifs qui pratiquent de façon exclusive le sport, et on va dire accessoirement, ils ont des temps d'études ou, alors quand je dis accessoirement, de façon très limitée, une vie privée. Donc ce sont vraiment des garçons et des filles qui pratiquent de façon très, très intense ce sport avec des objectifs très, très ambitieux. On est sur la volonté d'exister sur le plan olympique, donc sur le plan international. Et donc, être simplement rattaché à son club par une licence, et donc de faire le tour du monde et d'être engagé dans des préparations physiques intenses, la licence n'est pas une couverture qui permettait d'assurer, on va dire, honorablement ce parcours. À titre d'exemple, ce sont des jeunes qui ne cotisaient pas des points retraite, et on peut finir des carrières à 35, 36, 37 ans, imaginez la retraite. On vit des périodes de blessures, ce ne sont pas des arrêts de maladie ou des accidents du travail, ce sont des moments où on est seul, et sans parler de la crise du Covid, où si la seule rétribution c'est l'activité et les frais de déplacement, vous imaginez. Donc la professionnalisation a été un vrai objectif de protection du sportif dans une vraie logique de prévoyance. Alors cette première expérience nous a amené à créer cette ligue professionnelle. Donc le premier président a été Stéphane Diegana, un ancien coureur de 400 mètres haies. Vous voyez, on reste dans la consanguinité. Et donc cette ligue existe encore aujourd'hui. Et dès lors qu'on avait pu installer un vrai contrat de travail entre le sportif et le club, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont ça s'est fait ou le modèle économique, mais on peut en revenir si vous le souhaitez. Eh bien, j'ai imaginé qu'à chaque métier, il y a une formation et des compétences à acquérir. Je ne pense pas qu'on puisse s'auto-proclamer prêtre. Il y a un vrai parcours à mener, que ce soit sur le plan de la réflexion personnelle, mais également des contenus, des compétences, des connaissances. C'est pareil pour les entraîneurs. Eh bien, cette réflexion, je l'ai menée pour les sportifs professionnels. Et donc, j'ai mené une réflexion sur la création d'un référentiel de compétences et un référentiel de formation qui nous a amené à créer un diplôme universitaire qui couvre, je dirais, l'acquisition de toutes les connaissances et compétences qu'un sportif doit avoir aujourd'hui, parce que son métier ne se résume pas simplement en fabriquant de la performance. Et je vais revenir sur la logique de modèle économique. La valeur d'un sportif, elle repose effectivement d'abord sur son taux de notoriété. On est vraiment sur de la technique de communication, mais la notoriété est liée à la performance. C'est la mémorisation du nom, de l'identification, on le reconnaît, et qui correspond donc à quelque chose qui dure très peu dans le temps. Et puis ensuite, c'est la valeur d'image. Et la valeur d'image correspond à des compétences très spécifiques qui amènent à avoir des projections. Quand on imagine un sportif, si je vous dis Yannick Noah ou Franck Ribéry, ils peuvent avoir le même taux de notoriété, mais pas forcément la même image. Donc la valeur économique, elle est liée à ce type de sujet, et ça nécessite de véritables compétences. Donc une fois qu'on a créé ce diplôme, et j'en ai la charge aujourd'hui, et la diffusion sur le territoire, eh bien on s'est dit que ça serait quand même dommage que si une fédération n'a pas le souhait de rentrer dans une vraie logique de professionnalisation, donc de monter une ligue professionnelle et de monter un circuit, etc., eh bien, qu'il a été dommage que certains sportifs ne puissent pas bénéficier des travaux qu'on a faits. Et donc, on a décliné l'expérience qu'on a menée auprès d'une seule fédération et d'un seul sport sur les territoires. Et donc, ça nous a amené, en rentrant par cette porte du territoire, à professionnaliser d'autres sports, d'autres sportifs dans des disciplines individuelles comme la lutte, le tennis, le badminton, etc. Donc, clairement, ça a été un super parcours. On s'est vraiment fait plaisir. Et puis, à un certain moment, puisque donc, vous avez vu que je suis identifié comme le président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, je ne me suis pas réveillé un jour en disant quand je serai grand, je serai président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Ça n'a jamais été inscrit de cette façon-là. Ça n'a jamais été posé de cette façon-là. C'est presque devenu une conséquence. Contrairement à un projet sportif où chaque champion olympique a décidé de l'être, ou dans vos parcours, j'imagine évidemment que ça correspond à une aspiration, moi pas du tout. Tout simplement, en 2015, c'était François Hollande, donc un voisin, pas loin d'ailleurs, j'ai vu le panneau, de Tulle, qui avait pris des engagements lors de sa campagne pour travailler sur l'évolution du statut du sportif de haut niveau. Et donc, en janvier 2015, j'ai été auditionné par le ministère sur les travaux qu'on avait menés. Donc, j'étais déjà très heureux qu'ils aient pu identifier les missions qui ont été menées, les résultats qu'on a obtenus, donc sur la création de la ligue professionnelle, sur le diplôme et sur cette voie de professionnalisation par les territoires. Et donc, pour vous donner un peu le protocole, quand vous arrivez au ministère, vous arrivez avec vos papiers, on vous fait presque la radio des poumons pour rentrer, donc c'est quelque chose un peu très, c'est très officiel. Et je me suis retrouvé en face donc, d'un monsieur, d'un universitaire que vous connaissez peut-être, enfin qui est connu dans le droit du sport, qui s'appelle monsieur Caracchio, d'autres universitaires et puis des gens du ministère. Et quand je suis arrivé, j'étais en costume, donc il faisait très chaud dans la salle. Et donc quand j'ai commencé à intervenir, j'ai commencé à parler, tout le monde a commencé à prendre des notes. Et imaginez, au regard de mon parcours, je vous évoquerai peut-être tout à l'heure, de voir les universitaires prendre des notes, c'était presque humoristique pour moi et surtout gênant. Alors je leur ai demandé simplement de s'arrêter de poser le stylo en disant, comme l'avait dit l'intervenant hier, vous inquiétez pas, j'ai préparé le dossier, je vous le donnerai, vous n'avez pas la peine de prendre des notes et je ne vais pas vous faire un cours parce que je n'ai pas cette ambition, pas cette compétence. Par contre, je vais vous raconter comment on a fait. Et donc ça s'est bien passé, donc ça a été relativement long. Alors juste pour vous donner un tout petit peu sur encore les points de forme, comme il faisait très chaud, j'ai lui demandé si je pouvais enlever ma veste. Et en fait, ça a décontracté tout le monde et j'ai vu qu'ils avaient chaud également et donc ils ont enlevé leur veste. Voilà, alors donc, quand je vous dis que ça s'est très très bien passé, j'ai pas été applaudi quand je suis sorti, mais j'ai bien compris qu'ils avaient entendu le message. Et en sortant, je me suis dit quand même que des rapports ministériels, il y en a plein, des dossiers comme ça, il y en a plein. Et je me suis dit comment on peut porter la parole maintenant pour passer à l'action, quoi. Parce que si des propositions sont faites, c'est pas simplement parce qu'elles tiennent théoriquement, il faut qu'on puisse les mettre en application. Et le seul moyen pour pouvoir porter cette voix auprès des décideurs, et notamment auprès de l'Assemblée nationale et au Sénat, était de monter une organisation représentative des sportifs de haut niveau. Et c'est donc dans cette volonté, donc j'ai mis autour de la table des anciens sportifs dans des disciplines très différentes, avec des profils très différents. J'ai un champion olympique, j'ai un joueur de tennis, aujourd'hui dirigeant d'entreprise, une ancienne basketteuse internationale qui était une des premières à partir aux États-Unis. Bref, je veux dire, on a très rapidement mis autour de la table les anciens. On était auditionné aux alentours du 15 janvier, le 28 février 2015, l'Union nationale donc était créée. Et donc, on a pu amener et porter la voix des sportifs de haut niveau, puisque la loi qui est promulguée en novembre 2015 amène à des avancées significatives sur des dossiers de points retraite, de prévoyance, enfin de protection des sportifs. Donc on n'a pas obtenu tout ce qu'on souhaitait, mais en tous les cas, il y a eu une petite avancée. Et donc, fin 2015, l'idée a été de bien structurer cette organisation. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le paysage du sport, avec 2024 qui approche, qui est un accélérateur pour nous, Macron a repris le dossier. Maintenant, on fait partie réellement... on va dire, des organisations sollicitées dans leur réflexion. Donc, on a intégré les commissions d'évaluation de la loi à l'Assemblée nationale. On est régulièrement entendu au Sénat. Le Conseil d'État a également ouvert le dossier du sport, toujours dans la perspective des Jeux de 2024, mais tout n'est pas réglé. Alors, quand je vous dis tout ça, on a l'impression que je fais un métier très sérieux, mais qui n'est pas déconnecté, et je pense que c'est ce qui doit nous mobiliser, qui n'est pas déconnecté du quotidien. Parce que hier, la réflexion, c'est est-ce qu'on doit travailler ? Parce que les messages que j'ai entendus en matière de pédagogie, je trouve qu'ils sont très justes et ils résonnent beaucoup dans ma tête d'ancien élève ou d'ancien étudiant, mais je crois que ce qui est important, c'est que dans les réformes, dans les applications de certaines choses, on doit le voir réellement sur le terrain. Et nous, on ne doit pas perdre cette vision-là, et je vais vous raconter le quotidien. Parce qu'autant, là, ça faisait quelque chose de très sérieux et de très parisien, le quotidien, il est moins drôle. Enfin, en tous les cas, il est moins... on a utilisé le mot « sexy » hier, parce que tout simplement, 50% de l'équipe de France olympique à Rio était sous le seuil de pauvreté. Que quand on parle de professionnalisation, ça correspond à moins de 10% des sportifs de haut niveau sur le territoire. Donc la précarité, elle est du quotidien dans la vie des sportifs de haut niveau. 4% des sportifs de haut niveau sur le territoire vont atteindre l'équipe de France olympique. 4%. Ça veut dire en fait que, si vous faites le calcul, 96% d'échecs dans le parcours dans lequel ils se sont engagés. Imaginez une école de commerce qui indique qu'ils ont 96% d'échecs, ou une autre école d'ailleurs. Et vous imaginez, et je n'ai pas l'impression que ça attire. Et malheureusement, ça attire. Et j'ai l'impression que c'est comme le loto, moins on a la chance, de chance de réussir, plus on joue. Et ce n'est pas simplement dans le sport de haut niveau, mais également dans le sport professionnel qu'on a ces mêmes chiffres. Quand on voit un tout petit peu le volume de jeunes qui se retrouvent en situation d'échec au terme d'un centre de formation, donc au terme d'un parcours qui les amène jusqu'à l'âge de 18 ans, on est déjà sur des logiques de reconversion sur ces âges. Et ça, je trouve que c'est pas acceptable. Donc on est en face de sportifs en souffrance, parce que la vie et les pratiques de haut niveau sont devenues, je dirais, des parcours très difficiles. Alors donc, le sport s'est mondialisé, c'est-à-dire que j'ai parlé comme un vieux à mon époque, il y avait le bloc de l'Est et puis les États-Unis. Aujourd'hui, une île comme la Jamaïque est en mesure de placer deux finalistes et voir un champion olympique sur une finale d'un 100 mètres, ce qui était impossible à notre époque. Ensuite, les niveaux de performance sont devenus inhumains. Et donc, on est maintenant sur des préparations qui, quantitativement, sont excessives. On est sur trois séances par jour. On est en natation sur des volumes horaires et des kilométrages impossibles, qui amènent à devoir compenser la quantité de travail par des vraies techniques de récupération. C'est des modèles et des protocoles très précis de récupération. La récupération, c'est les micro-siestes, c'est des volumes de sommeil spécifiques, c'est une diététique et une complémentation alimentaire spécifique, c'est de la préparation mentale, c'est un accompagnement psychologique. Et donc, dans tout ça, il y a un sportif, il y a un corps, et puis il y a quelqu'un qui vit. Ça veut dire que, quand je vous parlais de vie privée tout à l'heure, ce sont des garçons et des filles qui n'ont pas forcément des vies privées. Ils sont sortis de leur contexte familial très jeune, et dans des machines qui sont des centres de formation ou des pôles d'entraînement. Donc vous imaginez quand même que pour 2024, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que les fusibles soient les sportifs. On a parlé ce matin des serments qui étaient tout secs et qui brûlaient bien, il me semble. Et donc nous, dans notre expression, on dit souvent, une fois qu'on apprécie le citron, on peut le jeter. Je ne souhaiterais pas qu'on soit dans cette stratégie au lendemain de 2024. Et donc l'idée est de mettre tout en œuvre pour sécuriser leur parcours. Donc nos missions sont structurées autour de trois points essentiels. C'est cet axe de professionnalisation qui amène à un statut et à une reconnaissance du métier. Et donc c'est un axe qui est très important pour nous, et en dehors de la reconnaissance, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un moyen pour vraiment protéger le sportif. Le deuxième aspect, c'est la sécurisation du parcours. C'est réellement les sensibiliser sur ce morceau de vie qui correspond qu'à un morceau de vie. Ça veut dire qu'au-delà de la carrière sportive, il y a des choses à faire. Et enfin, troisième chose, qui peut englober les deux premières, c'est la protection des sportifs. Et je voudrais juste m'étendre sur ce troisième point. C'est pour protéger un sportif, c'est d'évaluer tous les risques auxquels ils sont soumis, et à partir de là, de mettre en place toutes les actions de prévention, dans l'idée de plus je vais diminuer le risque, plus je suis en situation de pouvoir optimiser la performance. Alors quand je vous dis ça, c'est très vertueux. En tous les cas, ça correspond au droit du travail. Dans toutes les entreprises, vous avez un support qui s'appelle le document unique, qui est un outil obligatoire, réglementé, qui détermine avec précision les risques auxquels les salariés sont soumis, et à partir de là, de les identifier, de les hiérarchiser, et d'engager l'ensemble des démarches de prévention pour que ce risque soit éliminé, voire diminuer de façon substantielle. Et donc, la blessure ou l'accident du travail, la maladie, est un échec dans une entreprise. Alors quand je vous dis ça, je le dis avec fermeté parce que je ne le savais pas, et je me suis rapproché dans cette réflexion d'une entreprise qui est une entreprise qui est spécialisée sur le plan international sur ces problématiques. C'est la société Decra, qui est spécialisée dans des domaines plutôt industriels, le nucléaire, enfin des sujets très, très pointus, mais pas le sport. Et donc, je trouve qu'il est plus intéressant de les rencontrer. Je parlais de consanguinité, c'est notre défaut. On est toujours entre nous, avec plein d'avantages et des fois des inconvénients. Il faut aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Et donc, J'ai préféré me rapprocher de cette structure et on a travaillé sur un outil numérique qui permet, qui est une plateforme en fait, qui est en mesure de façon transversale d'identifier, hiérarchiser de l'ensemble des risques, d'engager les démarches de prévention et surtout d'arriver jusqu'à des propositions de consultation, quand j'ai consultation, de recommandation pour consulter des professionnels. Alors, les risques sont multiples. La blessure, pour les sportifs que vous êtes, vous connaissez, mais on a des risques psychosociaux, on a des risques de dopage, on a des risques fiscaux, des risques juridiques, socioprofessionnels, bref, vous voyez, c'est tout un panel. Et donc, c'est un travail réellement important et donc qu'on a déjà présenté au ministère et au comité olympique. Et donc, cette plateforme est en phase d'essai et elle va être lancée début de l'année prochaine. Voilà. Donc, ce sont des travaux, on va dire, vertueux qu'on mène et dans l'idée de bien protéger nos sportifs. Alors, je parlais tout à l'heure de leurs difficultés. Dans le sport professionnel, c'est pas différent. On en a discuté hier soir avec Joël. Donc, tu es plutôt orienté vers les sports professionnels, le football en particulier. Vous savez, dans ces disciplines, on est devenus les sportifs des statistiques. C'est-à-dire qu'un sportif, c'est d'abord un temps de jeu, c'est un nombre de passes réussies, de buts marqués, de buts arrêtés, etc. Et donc, ne pas être sur la feuille de match, c'est un drame, puisque vous perdez en temps de jeu. Ça veut dire en fait que toutes les semaines, ils sont mis en concurrence dans leur équipe, et si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Et donc, vous imaginez la pression au quotidien de toujours faire mieux, toujours être au maximum de ses capacités, de ses aptitudes, même au-delà. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va être en situation de faiblesse ne l'est pas, puisqu'il est sportif de haut niveau. C'est un superman. Donc, il ne peut pas être blessé, il ne peut pas douter, il ne peut pas être en situation d'échec. Et donc, s'il a des douleurs, s'il a des doutes psychologiques, il va peut-être s'orienter sur des consultations extérieures et qui ne sont pas forcément organisées pour ça. Mais ils ne le font jamais au niveau de leur club ou de leur organisation. Parce qu'imaginez, si l'entraîneur sait qu'il peut traverser, comme on l'a évoqué hier, un deuil, on sait qu'il va pouvoir être en situation de faiblesse, il ne sera pas sur la feuille de match. Donc voilà, quand on parlait de valeur économique, on y est, c'est la notoriété, c'est la valeur d'image et c'est statistique. C'est inhumain, en fait, et très superficiel, parce que bon, on n'est pas fait que de ça. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et donc, enchaîner ensuite sur la foi, moi c'est compliqué de l'expliquer comme ça. Alors, en regardant la liste que tu as mise dans le document, j'ai découvert par exemple Chris Akabusi qui est en deuxième, donc qui est quand même sur le podium dans la liste, hein, il est deuxième. C'est un ancien coureur de 400 mètres et anglais qui est de ma génération, il est un peu plus âgé que moi et je vais côtoyer au quotidien quand on est sur des tournées de meeting, on est ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on se tire la bourre ensemble, on fait de la compétition, mais bon, c'est dans un esprit très, très simple puisqu'on vit ensemble. Et je ne savais pas du tout qu'il était, parce que je suis allé rechercher après, je ne savais pas qu'il était si proche et engagé en la foi. J'ai découvert également Rena Fleur Okori qui n'est pas identifiée là, mais je pense que vous l'avez identifié sur un autre site. Enfin,
Je ne les ai pas tous mis là.
Oui, oui. Rena Fleur, c'est...
Ah oui, dans le
document d'âge. C'est une athlète que j'ai suivie quand j'avais la direction de l'équipe de France. Et j'avais aucune vision de ses aspirations, en tous les cas de cette dimension spirituelle. Alors, si on doit enchaîner avec la foi, la difficulté, c'est que quand vous faites du sport de haut niveau, vous êtes un dieu. Donc, vous n'avez pas besoin d'un autre. Vous êtes égocentré, votre vie, elle est orientée vers le quotidien de votre propre personne, alors petite ou grande personne. Et donc, cette dimension spirituelle, soit elle est déjà engagée au début, et qu'en fait, le sport est un moyen de pouvoir vous exprimer et vous être accompagné, soit elle vient après. Et donc, hier, il était évoqué la notion de blessure, de moment de faiblesse, où le sportif va comprendre qu'il est vulnérable, enfin, en tous les cas, qu'il n'est pas le dieu qu'il pensait, ou en tous les cas, celui qui est en mesure de tout affronter, même si on attend ça de lui, puisque donc déjà le regard des parents Il est déjà axé vers cette dimension où ils ont l'impression d'avoir fabriqué quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai des enfants, et d'ailleurs, ce sont des garçons exceptionnels, mais je veux dire, par là, il y a une limite. Il y a quand même une limite, puisque c'est moi qui les ai faits, parce que, déjà, par principe. Mais en tous les cas, souvent, ils ont un regard, on va dire, plus qu'admiratif. Ensuite, il y a un environnement qui les sublime, et ensuite, ils arrivent sur des terrains, sur des lieux. Alors, je pense que vous avez peut-être déjà célébré des messes avec beaucoup, beaucoup de monde, mais vous imaginez, quand vous avez plus de 40 000 personnes, 50 000 personnes, et que le sportif est convaincu que tout le monde est venu pour le voir, lui, c'est quand même, c'est troublant. Alors, qu'il le pense sur le moment de la compétition, juste pour le geste, il faut qu'il revienne après, en marche arrière, en se disant que c'est pas forcément tout le monde. Donc, il est égocentré, donc et c'est pas de sa faute. Je dirais que c'est même des fois même une qualité pour fabriquer de la performance. C'est pas forcément, on va dire, une bonne aptitude ou une bonne posture pour pouvoir s'ouvrir à la spiritualité, parce que il y a malheureusement dans l'ego pas assez de place. Donc ça peut être avant. Alors effectivement, vous avez des sportifs qui ont démarré avec ça. J'ai l'exemple d'une sprinteuse américaine, Brisco Hooks, qui va être championne olympique, alors sur 400 mètres. Alors pour les joueurs de tennis ou de football, je suis vraiment désolé, mais quand on pratique ces sports, on joue au tennis, on joue au football, mais quand on fait du 400 mètres plat, on ne joue pas. Richard peut le confirmer, on a même des fois des moments de douleur et de solitude. Voilà. Et donc elle s'est engagée sur cette discipline parce que son frère et a été tué par une balle perdue, donc à Los Angeles, et il préparait les Jeux. Et donc elle a décidé de le remplacer. Donc on va dire par là qu'il y a eu un moteur, et puis on va dire une force qui est surhumaine, qui lui a amené à fabriquer de la performance. Donc il peut y avoir des débuts d'histoire qui fait que le sport a été utilisé, enfin a été un moyen d'exprimer certaines choses. Et puis après, donc on arrive sur des points de rupture où on va s'accrocher. Mais malheureusement, je pense que quand on s'accroche, quand vous avez parlé hier de la blessure, souvent, le sportif va attendre un miracle parce qu'en fait, il va se retrouver confronté à une échéance, il est blessé, et on va dire que, de façon rationnelle, il n'y a plus de solution. Donc la seule chose qui peut encore exister, c'est probablement la foi, et c'est vrai que c'est des fois déclencheur d'une réflexion. Mais c'est aussi déclencheur de mauvaises choses, puisque souvent, des problématiques comme le dopage ou d'utilisation de mauvais moyens pour se réparer et pour se relancer est souvent utilisé. Enfin, voilà, c'est la porte ouverte. La blessure est souvent un temps de difficulté, comme les temps de reconversion. Voilà. Donc, sur la foi, je pense que c'est un étage supérieur à la préparation mentale. On est hors performance. Parce qu'en fait, il faut admettre que vous n'êtes pas seul dans la réalisation de l'acte, du geste, réaliser quelque chose de parfait. C'est vrai, quand on utilise le mot don, il a un don, c'est donc qu'on lui a donné quelque chose. Souvent, on ne sait pas d'où ça vient, ou en tous les cas, on a l'impression qu'on est exceptionnel, mais non, on a un don, donc ça a été quelque chose qui nous a été donné. Et ça, donc, quand on arrive à bien le comprendre, je trouve qu'on est plus à même à l'utiliser. Voilà. Alors, ça vous va pour l'instant? Vous n'en ayez pas trop? C'est bon? C'est bon? Ça va? Alors, donc, la séance d'entraînement va démarrer tout à l'heure. Soyez prêts. Donc, et donc, je voulais finir par mon parcours personnel. Alors, je dirais que je ne suis pas là par hasard. Ça, c'est déjà une première chose. Dans mon parcours, j'ai été d'abord, on va dire, un chrétien. Plutôt structuré autour du culturel. Ça veut dire que tout le monde allait à la messe, moi j'allais à la messe, etc. J'étais un enfant de cœur, pas forcément de haut niveau, mais j'étais un enfant de cœur. J'ai fait mon parcours. Et puis ensuite, je suis parti dans les sections sport-études et puis les pôles, ce qui fait que donc, j'ai quitté la cité dans laquelle j'ai vécu. Et puis, vous êtes en situation de concurrence à l'église, parce que c'est les temps d'entraînement, c'est, voilà. Donc, j'ai quitté donc, ce côté rituel du dimanche, etc. Et jusqu'à très tard. Hein, et donc, j'ai honte de vous le dire comme ça, mais vous savez, quand je vous donne des villes, par exemple, je vous dis Alexandrie, quand je vous dis Thessalonique, quand je vous dis Rome, ça vous parle. Ben, moi, j'y étais, mais juste sur le stade. Et je n'ai pas fait de lien pour vous dire qu'on a une vision. J'ai pas fait de lien avec ce qu'il y avait à l'extérieur, et j'ai même, là, je serais même obligé de me confesser officiellement maintenant tout de suite. J'ai été invité par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 87, les champions du monde à Rome. Les athlètes étaient invités à le rencontrer, et je n'y suis pas allé. Et c'est des rendez-vous manqués, c'est vraiment des rendez-vous manqués. Et donc j'étais dans une habitude, enfin je suis devenu un sportif quoi, j'ai fait mon truc et ensuite ben, j'ai arrêté l'activité et puis il y a une vie entre guillemets qui se met en place professionnelle. Après je me suis marié, j'ai eu des enfants, donc quand je me suis marié à l'église parce que ça se fait comme ça quoi. Et puis mais j'avais toujours du plaisir à aller à la messe, alors je sais pas si c'était par rapport aux souvenirs d'enfants etc. parce que j'étais en pointure de haut niveau, mais j'étais aussi, et donc souvent, aspiré, même, alors surtout quand on était en vacances, je voulais toujours participer à l'office, donc ma femme m'a suivi, mais elle était en quête, elle recherchait des trucs, alors elle a pratiqué un métier très sérieux, elle était experte comptable, commissaire aux comptes, associée dans un grand groupe, bref, un emploi du temps de fou, on a eu 3 enfants, donc on a beaucoup bossé, donc vous comprenez qu'on n'a pas le temps. On est embarqué dans une histoire. Et il était en quête. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Donc, ça vous amène à lire des bouquins sur le bien-être, la réflexion, comment je peux, en 10 leçons, me sentir mieux. Enfin, vous connaissez tous ces principes. Donc, ça vous amène à la méditation, voire juste à identifier des bouddhistes. Enfin, voilà. Et à un moment, je me suis dit quand même... on a quelque chose qui n'est pas très loin de chez nous, c'est une église, et je me dis peut-être que ça vaudrait le coup, ouais, mais comment je fais ? Enfin, bon, peu importe, je trouve peut-être un moyen. Et puis en fait, sur Radio France Info, on parle d'un livre sur Jésus, un livre qui l'aborde sur le plan historique. Alors je ne peux plus vous dire l'auteur, c'est une femme qui est intervenue sur Catéo également, qui connaît son sujet. Et donc je suis allé à la FNAC, j'ai acheté le livre et j'ai sous-traité, je l'ai donné à ma femme pour qu'elle le lise. Et elle l'a lu, mais elle l'a lu en très peu de temps. J'étais scotché. Et elle me dit, tu sais que Jésus a existé. Alors là, j'ai dit, ah bon, c'est écrit, oui, elle m'explique. Et puis au fur et à mesure, attends, on a parlé de ça, parce qu'on n'a pas la télé avec les enfants, on a décidé que la télé, c'était... Et on parle de ça, j'ai dit, ah bon, mais... Je commence à lire les extraits et là je découvre que ça vous paraît peut-être stupide hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais que historiquement il a existé. Pour moi, on était dans quelque chose de plus légendaire, de plus impalpable. Hein. Et là concrètement, je découvre ça. Alors donc, je vous dis, c'était un peu plus d'une Olympiade, donc ça fait 5 ans à peu près. Ce qui nous a amené très rapidement, alors moi j'ai téléphoné au curé de ma paroisse. J'ai téléphoné, je lui ai dit écoutez, il faut qu'on se voit, enfin si vous avez 5 minutes. Parce qu'en fait, je suis allé acheter une Bible et alors déjà, c'est super épais. Et quand j'ai regardé, je me dis, mais par où je commence ? Parce qu'il y a plein de chapitres et tout. Et je commence à lire comme ça, je regarde, je me dis, non, c'est impossible. Pour moi, c'est imbuvable, c'est impossible. Et plus je lisais comme ça des extraits, plus pour moi, c'était réel. Et surtout incompréhensible, parce que où ça se passait, il y a combien de temps, dans quelle échelle du temps, etc. Enfin, voilà. Et donc, je vais voir le curé, il nous voit arriver, et il pensait qu'on allait se marier. Mais ça faisait déjà depuis des années que je suis marié. Donc, j'ai dit non, c'est bon. J'ai dit écoutez, moi j'ai acheté un bouquin, je vous explique rapidement. Moi j'ai acheté un livre à ma femme et j'ai compris que Jésus existait. J'ai acheté la Bible, je ne sais pas par où démarrer. Il me dit qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit bon, on va commencer. Il m'a donné un truc sur l'évangile de Marc. Il m'a dit écoute, on va commencer par l'évangile de Marc. Tu vas lire 2 chapitres, 3 chapitres, et puis on se revoit. Et en fait, ça va nous amener à lire, à discuter. Je suis parti ensuite en Terre Sainte. Nous sommes partis en Terre Sainte avec mon épouse et David, pas le roi, le curé, il s'appelle David chez nous. Et on a fait un périple en marchant. Donc, Nazareth, Jérusalem, enfin tout, quoi. On a fait tous les endroits stratégiques à pied. On a vraiment vécu des grands moments. Et ça donne vraiment une bonne vision pour pouvoir lire, parce que quand vous lisez, vous savez où c'est. Enfin, un canard, j'étais, quoi. Et ça donne vraiment un vrai contenu, c'est du réel. Et donc, c'est comme ça que j'ai mené mon cheminement. Puis un jour, mon épouse m'a dit, concrètement, moi, l'expertise comptable, le boulot, tout ça, c'est sympa, mais je pense qu'il est important de se poser la bonne question. On revenait d'un enterrement d'une personne de notre famille, et ma femme m'a dit, j'aimerais pas que le jour de mon enterrement, on dise, elle était expert comptable, commissaire au compte, et elle a bien fait son job. Elle me dit, si on me dit ça, c'est horrible, il faut que je donne du sens à ma vie, etc. Donc, ça nous a amené à réfléchir ensemble, parce qu'on n'arrête pas comme ça, hein, du jour au lendemain. On a eu des engagements. Enfin, donc, aujourd'hui, elle travaille à l'évêché à Metz, donc elle a tout arrêté. Elle s'occupe de compta, parce que c'est sa compétence, mais bon, voilà, elle est à l'évêché. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une passerelle du sport, donc je me suis mis en lien avec Pascal. Et me voilà. Et me voilà. Alors voilà un petit peu le cheminement. Donc moi je suis convaincu qu'il peut y avoir le développement d'une pastorale du sport sur mon périmètre, enfin géographique. Qu'ensuite, je vais vous reparler de 2024, je pense qu'on doit avoir notre place. Vous voyez, je fais déjà partie de l'équipe. Je pense qu'on a notre place dans cette démarche-là, parce que concrètement, il y a des vrais besoins. Et avec la discussion que j'ai eue avec Joël hier, je suis convaincu de ça. Parce qu'on a, comme je vous le disais, les gens, les sportifs qui sont au feu et qui n'ont pas idée des besoins, en tous les cas, du bien que ça peut faire, de comprendre pourquoi ils font tout ça et donner un sens, ou les amener à l'essentiel, ou donner un sens à leur parcours. Je trouve que ce n'est pas idiot. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Enfin, voilà, je n'ai pas pris de notes. Enfin, si, j'avais réfléchi un peu ce matin, mais... Je voulais vous l'apporter plutôt sous forme de témoignage et vous remercier pour votre attention, à moins que je vous ai endormi, et là je pense que je ne serai pas content d'intervention. Voilà. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour échanger ou vous apporter quelques anecdotes, des choses, des expériences un peu folles qu'on a pu vivre. Parce que comme on est dans des sphères extrêmes, on a des moments.